Bon, vous êtes ici dans un temple maçonnique, mais je crois que vous connaissez, je vais relancer un peu le micro, vous connaissez à peu près, je pense que tout le monde était là tout à l'heure avec Laurence Vanin. Enfin voilà, vous êtes dans un espace plein de décors que je ne vais pas vous expliquer puisque ce n'est pas le moment. Et donc en présence de nos deux auteurs, de nos deux intervenants que je vais vous présenter, vous avez donc à ma gauche Frédéric Vincent, psychanalyste, docteur en sociologie, chercheur à l'Université de Paris 5, président de l'Association des psychanalystes européens, qui défend une psychologie héroïque qui fait de tout un chacun l'acteur héroïque de sa vie personnelle. Voilà, j'ai essayé de résumer un petit peu ce qu'il a fait. Il est auteur de plusieurs publications qui font autorité. Voilà, Frédéric, avec qui j'ai eu le bonheur tout à l'heure. À ma droite, Stéphane Plateau, écrivain de fantasy belge, remarqué par sa trilogie « Les sentiers des astres », dont le premier volume a obtenu le prix imaginal du roman francophone en 2015. Alors, il est historien de formation et il pratique bien sûr l'écriture, mais en même temps la musique. Je ne me suis pas trompé.
Tout à fait.
Donc on a en présence deux univers assez distincts, on va essayer de comprendre au travers des échanges qu'il va avoir l'un avec l'autre, qu'est-ce qui les rapproche ou qu'est-ce qui les distingue. Ça va être, je pense, assez intéressant de comprendre un petit peu. Donc, en quoi le sujet peut les inspirer. Alors le sujet s'intitule « Des ogres et des astres ». Alors des astres. Alors je vais donner la parole à Stéphane peut-être pour commencer, s'il veut bien, donc pour qu'il nous parle des ogres, par exemple, pour commencer. Pour lui, qu'est-ce qu'il entend par donc l'appellation « les ogres ».
Alors, les ogres, pour moi, c'est un monstre que j'avais envie d'explorer au début sans trop savoir pourquoi. On a une envie d'écriture, on s'intéresse à une créature qu'on retrouve dans les contes, qu'on retrouve dans la mythologie. Tiens, j'ai envie de faire quelque chose avec ça. Pourquoi un homme devient un ogre? Alors déjà, c'est un parti pris de ma part, puisque dans beaucoup de récits, l'ogre est un ogre de naissance. Et souvent, en fantasy, il est exploité comme tel. Moi, c'était pas ça. C'était comment un homme devient un ogre. C'est ça qui m'intéressait. Donc, je suis dans une démarche. J'en parlais hier à une autre table ronde, en fait, où pour moi, le monstre en fantastique et en fantasy, en fait, c'est plutôt une démarche fantastique à la base. Vous connaissez la différence entre fantastique et la fantasy? Donc, le fantastique, c'est vraiment l'irruption du surnaturel dans le monde réel. Il y a une rupture de la normalité. Et souvent, ça n'est pas expliqué. Il n'y a pas une raison scientifique, par exemple, qui fait que l'élément fantastique est rentré dedans. Par exemple, Frankenstein n'est pas vraiment du fantastique parce que ça reste plutôt de la science-fiction. En fait, il y a une explication, il y a un scientifique qui crée une créature. Et que la fantasy, c'est vraiment l'irruption dans un monde imaginaire, entièrement imaginaire, même s'il peut s'inspirer très fortement du monde réel, être une sorte de décalqué du monde réel, une uchronie. Donc en fantasy, on a plutôt l'ogre qui est un ogre de naissance ou qui est une race, une espèce à part entière de créature. En fantastique, il va plutôt faire irruption dans la normalité. Moi, j'avais plutôt une démarche fantastique où il fait irruption dans la normalité et même dans la normalité d'un homme qui est déjà, qui avant ça a l'air tout à fait normal. Donc en fait, je crois que chez moi, les monstres, c'est une façon d'explorer des faces cachées de la nature humaine, des forces inconscientes à l'œuvre dans la nature humaine. Donc mon roman qui parle d'ogres s'appelle Dévoreur. Ça se passe dans les montagnes, dans mon univers. C'est un univers imaginaire mais qui est une sorte de Moyen-Âge teinté d'inspiration celtique et védique, hindoue. C'est un peu comme si les Celtes avaient conquis l'Inde antique, ou alors le contraire, et que tout ça avait évolué conjointement d'une seule civilisation, jusqu'au niveau de la technologique de la fin du Moyen-Âge, début de l'artillerie à poudre, les armures de plate élaborées, etc. Et donc ça se passe dans des montagnes, un peu comme les Cévennes. montagne assez chaude, et on suit un brave montagnard, Vidal. Il est marchand d'âne. C'est un homme qui a l'air bourru, mais qui est en fait très, très jovial, en grand castard, comme ça. Et sur la colline voisine, enfin sur la montagne voisine, il y a un couple qui sont ses amis, qui sont ses voisins, dont l'homme est magicien et la femme est une femme sans pouvoir particulier, qui va d'ailleurs voir partir son époux pour une mission diplomatique à l'étranger, qui va se retrouver seule avec comme compagnie Vidal. Et un jour, Vidal part vendre ses ânes à la foire, et quand il revient, il a changé. Elle va le voir, il est bourru, il est fermé, il enferme ses filles à l'intérieur, on ne comprend pas trop ce qui se passe, et elle remarque qu'il y a une étoile, une planète en fait, qui brille trop fort au-dessus de sa maison, et cette planète c'est le dévoreur, et comme elle est une épouse de mage, elle sait que le dévoreur est un astre néfaste. Et donc, je vais peut-être parler des astres. Quand j'ai travaillé mon univers en fantasy, on commence souvent par concevoir un univers, en essayant qu'il ait de l'originalité, qu'il ait une personnalité, en situant plus ou moins l'époque dont on s'inspire, le niveau technologique, le niveau de civilisation. Souvent, on s'inspire d'une époque et d'une région géographique, ou de plusieurs régions géographiques. Et puis, il y a aussi la question des forces surnaturelles, des croyances, de la magie, des créatures. Ça aussi, ça marque un univers, puisqu'on est dans un univers fantasy, donc on a toute latitude pour faire arriver des choses qui n'existent pas dans le monde réel, pour faire apparaître, ou en tout cas qui sont présumées ne pas exister dans le monde réel, faire apparaître de la magie ou des créatures surnaturelles. Donc j'ai réfléchi à mon système de croyances, et j'avais envie de m'inspirer d'une sorte, d'une part du chamanisme, mais d'une sorte de chamanisme, donc de la croyance que tout est animé par des esprits. C'est vraiment la pensée magique, la pensée pré-scientifique. On explique le monde par des forces surnaturelles parce qu'on n'a pas encore l'explication scientifique pour l'expliquer. Et donc cette pensée magique, elle est, à mon sens, en recul au fur et à mesure que la science avance. Bien que plus on découvre des choses, plus on pose des questions, ce qui lui redonne des espaces, comme toujours. Et donc, finalement, voilà, ce sont les esprits des quatre éléments, ce sont les esprits liés aux émotions qui flottent dans l'air et que les humains peuvent se transmettre inconsciemment et qu'un mage peut canaliser pour influencer les émotions des autres en envoyant vers eux des esprits d'émotion. Ce sont les esprits qui descendent des astres qui sont conçus comme la structure du cosmos. Alors là, on a une influence de la pensée médiévale dans laquelle les astres structurent le cosmos, mais également l'âme humaine. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a 8 astres majeurs dans mon univers. Le cosmos est articulé autour d'eux. Il y a évidemment le soleil, la lune, et puis il y a des astres qui sont principalement inspiré des planètes, plus ou moins inspiré de nos planètes. Mais on retrouve la même structure au cœur de l'âme humaine, dans un endroit qui s'appelle, dans mon univers, le calice, dans lequel on retrouve non pas des copies des astres, mais les astres eux-mêmes, qui sont à la fois extérieurs et à la fois en dedans. Et ces astres, en fait, symbolisent des grandes forces de la nature humaine, et donc des pulsions. Il y en a des fastes et des néfastes. Et parfois, les néfastes peuvent être relativement nécessaires à condition d'être canalisés, comme la colère.
Juste pour donner la parole à Frédéric, vous avez parlé des pulsions, je crois que là, on rencontre un petit peu de son domaine à partir du moment où il s'agit de force intérieure. Pulsions, je ne sais pas, est-ce que tu veux intervenir à ce moment-là?
Pourquoi pas, mais c'est vrai que dans notre milieu hein, psychanalytique ou même dans le milieu anthropologique, on considère que la majorité des symboles, des images symboliques sont le produit d'un psychisme qui a certainement la volonté, si vous voulez, de créer un langage qui nous permette d'accepter le réel. C'est ce que va nous expliquer notre regretté frère Gilbert Durand, qui a créé dans les années 60 le premier centre de recherche sur l'imaginaire à Grenoble, et avec derrière tout un ensemble de recherches sur l'imaginaire dans le milieu de la littérature, bien sûr, dans le milieu de la sociologie, de la psychanalyse, et de l'anthropologie. Et Gilbert Durand nous expliquait que l'imaginaire, c'est une sorte de soupape de sécurité. C'est ce qui, effectivement, nous permet de supporter des choses que notre conscient ne peut pas accepter, ne peut pas supporter. Donc, quelque chose qui est foncièrement lié à un instinct de survie, quelque part. Donc, notre esprit, notre psychisme, a cette capacité, finalement, de créer un langage symbolique, et ça nous parle à nous, francs-maçons, un langage symbolique qui permet une certaine compréhension du réel, d'un réel qui peut être indicible, impalpable. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que le psychanalyste Jung fait souvent un parallèle entre l'imagination symbolique et la spiritualité. Parce qu'effectivement, on est en lien avec des choses parfois qui échappent à notre conscience rationnelle. On est dans une société, et notamment en France, on est quand même dans le pays de René Descartes, on est finalement le premier pays à avoir véritablement ouvert une, à avoir créé une dichotomie entre le rationnel, la raison, et l'imagination. Je rappelle que Descartes disait que l'imagination était la maîtresse d'erreur et de fausseté. Malebranche ira plus loin en disant que l'imagination, c'est la folle du logis. Donc on a, faut quand même rappeler que l'image, que l'imagination a été une faculté qui a été longtemps combattue par nos scientifiques, en disant qu'effectivement, c'est, ça nous empêche de connaître le réel, de le comprendre. Alors, je suis pas là pour faire un procès d'intention. J'explique seulement qu'on a créé des habitudes de pensée. Ou, encore une fois, on n'a pas forcément envie de comprendre, on n'a pas forcément envie de parler un langage symbolique. Et on va plutôt aborder ou intégrer un langage, ce que j'appelle un langage analytique, un langage économique et rationnel. Où finalement, on va construire notre vie sociale, notre existence, on va la chiffrer, si vous voulez. Voilà, on va essayer de construire des représentations mathématisantes. Le fantastique ou la fantaisie, quel que soit le genre, dès l'instant où ça fait appel à l'imagination symbolique, parce que c'est ce qui m'intéresse, c'est qu'effectivement, on va peut-être ouvrir une boîte de Pandore. On va peut-être justement rentrer dans des spéculations qui sont beaucoup plus profondes. En l'occurrence, l'ogre, par exemple, la figure de l'ogre, pour les psychanalystes comme pour les anthropologues, ça renvoie à ce qu'on appelle l'archétype du monstre. Comment on va procéder en tant qu'anthropologue, en tant que psychanalyste, pour essayer de comprendre une telle représentation mythologique ? Ça reste quand même de l'ordre du mythe. Ce qui ne veut pas dire, parce que je sais que pour un esprit cartésien, le mythe, c'est ce qui relève du mensonge ou du faux. Non, en tant qu'anthropologue ou psychanalyste, on cherche juste à savoir le sens qu'il y a derrière une figure. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que souvent, l'ogre incarnait, si vous voulez, le monstre dévorant. Et que Gilbert Durand parle d'isomorphisme. Alors, l'isomorphisme, c'est pas un gros mot. C'est juste pour expliquer qu'il y a des liens entre certains symboles. Il y a une sorte de constellation de symboles. Par exemple, l'ogre, on peut justement le lier à la figure du jaguar dans certaines mythologies amérindiennes. Le jaguar qui vient dévorer les gens. Le lion, par exemple. Parce que Gilbert Durand nous dit que, finalement, de tous les symboles, tout le symbolisme du monstre, c'est un symbolisme, ce qu'il appelle un symbolisme thériomorphe qu'on va trouver dans la majorité des sociétés primitives. C'est-à-dire que l'animal apparaît comme certainement le premier symbole du monstre dévorant. Et ce qu'il nous explique, c'est que un des indices qui nous montre un petit peu cet aspect du monstre dévorant, c'est la gueule, les crocs. Donc, que ça soit un loup, que ça soit un lion, ou que ça soit un ogre, effectivement, ce qui va caractériser le fait que ça soit un monstre dévorant, effectivement, ce sont les dents, ce sont la gueule. Donc, ça va être un des indices de cette représentation archétypique. Et ce que nous dit Gilbert Durand, c'est que le fait de représenter un monstre, finalement, ça nous permet déjà d'accepter l'horreur qu'il y a derrière ce monstre. L'idée, c'est que l'image vient cristalliser un ensemble d'angoisses et de peurs. Et l'ogre, ou le monstre dévorant, qu'il s'agisse du loup ou du lion, viendrait finalement euphémiser une angoisse devant le temps et devant la mort. Pourquoi euphémiser, pourquoi avoir besoin de recourir à des monstres ? Parce que Gilbert Durand nous dit que en face, on va pouvoir créer des héros, on va pouvoir créer des armes, des antithèses de la mort. Parce que l'objectif finalement du récit mythologique, ça va être de chercher la mort de la mort, la mort du temps, le fait de pouvoir échapper, justement, de pouvoir survivre, de pouvoir justement s'imaginer un échappatoire. Donc on a besoin finalement de transcender une existence qui peut être terrible et horrifiante. Parce que l'horreur, c'est finalement, quand on réfléchit, l'horreur, c'est pas tellement le monstre dévorant, c'est ce qu'il y a derrière le monstre dévorant. C'est nos angoisses, nos peurs. Et encore, comme j'ai dit hier, par rapport à Star Wars, où finalement, il y a toute une construction mythologique autour de la figure de Dark Vador, qui est aussi un monstre dévorant. Et là, je rejoins ce que dit Stéphane, dans le sens, moi aussi, ce qui m'intéresse, pour le coup, c'est comment un chevalier Jedi comme Anakin Skywalker, comment il se transforme en ogre, en monstre dévorant. Et c'est pareil en maçonnerie, c'est comment, finalement, un initié, un maçon, se transforme en mauvais compagnon. Et toute la mythologie maçonnique tourne autour de cette question-là. Dans Léograd, il n'est question que de ça. Finalement, comment faire pour apprivoiser ce que Jung appelle cette part obscure? On a tous un ogre en nous-mêmes. Et effectivement, la maçonnerie comme la psychanalyse a vocation à interroger cet ogre.
Donc le moteur du psy, c'est un petit peu essayer de stigmatiser les peurs. C'est un petit peu ça donc, dont il est question hein, au travers du travail du psy. Alors, dans le monde de la fantaisie, est-ce que vous avez aussi des peurs à stigmatiser ou bien est-ce que vous les appréhendez autrement?
Alors oui, certainement, il y a aussi dans beaucoup de bouquins de fantasy la notion de la difficulté à s'accomplir soi-même. C'est ça qu'on retrouve souvent des jeunes hommes ou des jeunes femmes qui ont des difficultés, qui sont orphelins, qui ont un héritage plus lourd à porter, qui ont des talents ou des dons plus difficiles à porter et qui vont mettre plus de temps à atteindre l'état d'adulte équilibré, à se construire, parce qu'ils ont des choses plus fortes ou plus difficiles en eux. Et finalement, alors j'ai envie de dire, les auteurs eux-mêmes vivent ça dans l'enfance, on sent qu'on est quelque part différent, avec notre honteuse imagination qui bouffe tout, qui déborde tout. Mais en même temps, c'est aussi l'histoire de tout le monde. Tout le monde est différent d'une façon ou d'une autre, tout le monde a sa part de poids à porter à ce niveau-là. Ici, par contre... Je suis plus ça c'est ce que j'appellerais notre propre monstruosité, notre propre différence, le monstre au sens positif du terme qu'il faut arriver à accomplir, à faire grandir en signe. Hein. Dévoreur ici l'histoire de l'ogre, c'est autre chose. J'ai voulu vraiment creuser cette figure de l'ogre. Je me dis, je vais parler d'un homme qui se transforme en ogre. Alors c'est quoi un ogre? C'est quoi dans la mythologie? C'est quoi simplement dictionnaire des symboles, c'est quoi dans les contes, et évidemment je vais faire un tri, je vais faire un choix et je vais quand même en livrer ma propre vision, et tant mieux parce qu'elle sera différente de celle du collègue. Donc je suis remonté à l'ogre par excellence dans la mythologie, ou en tout cas un des ogres par excellence, qui est le mythe de Cronos, tout simplement. Cronos qui dévore ses propres enfants pour ne pas que ses enfants lui succèdent, et qui... essaye de prolonger de la sorte son immortalité et qui donc empêche le passage des générations. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Cronos, c'est parce qu'il va falloir le tuer pour que le temps commence sous forme de passage des générations. J'ai trouvé ça très intéressant et très contemporain. Donc, je vous explique d'où ça vient. En fait, une des origines de mon envie de parler d'ogre est en fait un cours de philo que j'ai eu à l'université en Belgique. Le prof de philosophie était un gars qui était un cancéreux multirécidiviste, si je puis dire, et qui a consacré toute son œuvre philosophique au thème de la mort. Très beau thème en philo, évidemment. On y revient, hein, à la mort, justement. Et il donnait un cours qui était vraiment génial, qui s'appelait « Vivre sa mort », et qui parlait du déni de la mort dans nos sociétés contemporaines. Et une des choses qui m'avait marqué, c'est qu'il expliquait que avant on acceptait de mourir parce qu'il fallait céder la place aux générations suivantes. On n'avait pas une croissance agricole infinie. On a eu des périodes de croissance agricole, hein, notamment au Moyen-Âge, vers le 11e, 12e siècle, une très forte croissance agricole due à toute une série d'innovations technologiques. C'est une période très innovante, contrairement à ce qu'on dit. Le 11e et le 12e siècle, c'est vraiment une période d'innovation technologique qui donne une vraie croissance de civilisation. Mais malgré tout, il y a une limite. Et si tu ne cèdes pas à un moment la terre à tes enfants, dans un cadre limité, mais ils n'héritent pas et ils ne sont jamais vraiment accomplis comme adultes. Il faut donc mourir pour permettre à la génération suivante de s'épanouir. Alors c'est une idée qui a des tas d'implications intéressantes aussi en science-fiction. Une des découvertes scientifiques qui m'a le plus épaté est le fait que le chromosome, le gène qui règle la fécondité chez une série d'animaux, apparemment c'est général, est le même que celui qui règle la durée de vie. Autrement dit, c'est un ajusteur de l'évolution, un ajusteur de paramètres qui règle la succession des générations. Et je suis prêt à parier que dans un contexte où il faut évoluer plus vite, où il faut s'adapter plus vite, ce gène est ajusté de façon à réduire la durée de vie et augmenter la fécondité pour que les générations succèdent plus vite. Je trouve ça vraiment un enseignement, une découverte scientifique qui est sans doute un enseignement fondamental. Bref, ce cours m'avait marqué. Et donc, pour moi, le mythe de Cronos, c'est ça aussi. Et donc, l'ogre que je décris est une créature. Donc, on va assister à sa transformation en ogre quand cette pulsion, quand cet astre, un des huit astres en lui, le dévoreur, devient dominant. Il y a un déséquilibre provoqué par la lumière de la planète au-dessus. Ou peut-être qu'elle n'en est qu'un symptôme, on verra bien. Mais en tout cas, il devient un ogre et c'est vu par les yeux de sa voisine, Aube, donc de son amie. Et ça commence déjà par poser une petite question morale qui est très intéressante, qui est: que faites-vous quand votre ami devient un ogre? Quelle conversation pouvez-vous avoir avec un ami quand il devient un monstre? Et jusqu'où êtes-vous prêt pour essayer de le sauver? À partir de quand vous constatez que vous ne pouvez plus rien faire et vous rompez les amarres pour vous protéger vous-même? C'est déjà un niveau de lecture, un autre niveau de lecture de ce petit roman, qui fait 120 pages, mais qui a pas mal de thématiques cachées derrière, parce que c'est quelque chose qui arrive à pas mal d'entre nous. On peut être confronté à un ami qui a des problèmes psychiatriques, qui se révèle à un moment schizo, ou qui se révèle ou un pervers narcissique, ou à des gens qu'on voudrait pouvoir sauver et qu'on ne peut pas sauver. Et dont il va falloir, à un moment avec lequel il va falloir au moins mettre une certaine distance. Déjà, la première partie du récit raconte ça. Puis la deuxième partie du récit, c'est le magicien qui vient confronter l'ogre pour sauver toute une série d'enfants, dont les siens, et qui va avoir un dialogue avec l'ogre dans lequel l'ogre va pouvoir révéler sa pulsion et dire ce qu'il pense. Et ça, c'est assez effrayant parce que c'est un dialogue avec le monstre. Le monstre est un homme, il reste un homme, et en même temps, il fait 3 mètres de haut, il est impressionnant, il a des pouvoirs, et il pose surtout des actes proprement monstrueux. Mais ce qui est effrayant, c'est qu'on voit toujours l'homme derrière, l'homme jovial derrière le monstre, il est toujours en bascule entre les deux, et on a le sentiment que ce qui lui est arrivé est quelque chose qui lui échappe, qui est dû arriver à cause d'un phénomène cosmique, et que ça pourrait nous arriver à tous. Et l'horreur du récit repose aussi là-dessus, sur le côté implacable de cette transformation qui pourrait sans doute nous arriver à tous. Donc, et ça permet le travail sur l'horreur du récit, parce que c'est aussi un récit d'horreur, est là. Mais derrière, il y a cet ogre qui explique ce que c'est être un ogre, qui explique pourquoi il doit manger ses propres enfants, pourquoi il doit ravaler leurs énergies, et que plus il les ravale, plus il grandit, plus il dévore des enfants, plus il dévore la génération suivante, plus lui-même grandit, plus lui-même acquiert des forces et acquiert de la longévité. Il acquiert ainsi une forme d'immortalité. C'est ça la mécanique qu'il y a derrière le monstre. Et là derrière, il y a des chroniqueurs qui ont été très malins et qui ont dit « Plateau nous fait une métaphore de notre société ». Et ils ont raison, parce que le mythe de Cronos, c'est ça aussi. Nous sommes dans une société qui est ogresque, qui dévore le futur de nos enfants. Parce qu'on ne veut pas de limites, parce qu'on tend à une certaine immortalité, parce qu'on pense à notre intérêt immédiat surtout, ou même à l'intérêt des ogres multinationales et d'autres ogres du genre. Mais on hypothèque les générations futures. Et donc le mythe de Cronos aussi derrière, c'est ça. Donc à travers cette histoire d'ogre, j'ai pu parler de ce qui arrive quand on a un ami qui tombe dans un problème psychiatrique ou qui change de façon monstrueuse. J'ai pu parler de la paternité, parce que ça aussi, c'est un débat. C'est le fait que la paternité est toujours un sacrifice d'une part de son potentiel, et on a un père qui refuse, et on a un père, le mage en question, qui l'accepte. On a d'ailleurs le récit Steininger, pas très très bien, parce que ses propres enfants sauvés, en même temps, deviennent terriblement méfiants avec leur propre père, parce qu'ils se disent si le père de l'autre, là, des voisins, a pu complètement basculer, et le mien, et s'il basculait un jour. Donc la confiance n'est pas vraiment rétablie, c'est une fin un peu en demi-teinte. Et puis, on a pu parler de notre société dans son ensemble, de la place qu'on laisse aux générations futures et de celle qu'on prend pour soi-même.
Donc on retrouve derrière ce que vous dites les ressorts de l'âme humaine, c'est-à-dire quelque part un besoin extraordinaire de prise de pouvoir, quelque part. Hein. C'est ça qui fait un peu l'homme et qui en fait un ogre. Alors vous avez parlé de psychiatrie tout à l'heure. On a tout à l'heure parlé ensemble du règne animal aussi, où on retrouve cette prise de possession qui existe aussi. Donc on voit ça à l'état de nature. On voit dans toutes les espèces d'animaux, par exemple, un mâle dominant hein, qui se bat pour conserver donc, la maîtrise du cheptel. Et on en a parlé tout à l'heure, il y a juste une exception, c'est chez les bonobos. On en a parlé tout à l'heure. Et pourquoi? Parce qu'il y a un amour absolument dévorant chez eux, qui n'arrête pas d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils s'entendent si bien. Mais vous avez parlé tout à l'heure de psychiatrie, je voudrais repasser la parole à Frédéric.
Alors, il est vrai que au sein de l'histoire de la psychanalyse, on a beaucoup glossé sur le complexe d'Œdipe. Et ce qui m'intéresse dans ce que tu dis, c'est que, effectivement, tu t'intéresses plus au père qui tue ses enfants, qui mange ses enfants. Alors que c'est vrai que dans la psychanalyse, on parle beaucoup de la mort du père. C'est que, on a beaucoup glossé sur l'idée que Œdipe, couche avec sa mère et tue le père. Mais en fait, quand on analyse le récit mythologique, beaucoup plus complexe qu'on ne le pense, et que, finalement, Œdipe en arrive à tuer son père, parce que, il y a quand même quelque chose, il y a quelque chose qui le précède, c'est que, à l'origine, c'est le père d'Œdipe qui a cherché à tuer son fils. Et ça, on l'oublie dans le récit qui a été interprété par les psychanalystes, on oublie qu'à la base, le père d'Œdipe a cherché à le tuer, à se débarrasser de lui, sauf qu'il a survécu, et que par accident, il en arrivait à tuer son père.
Toujours le mythe de Cronos.
Mais finalement, j'ai plus envie de parler aujourd'hui de complexe de Cronos que de complexe d'Œdipe tel qu'on le conçoit, en tout cas au niveau de la psychanalyse. Alors, pour revenir à notre thématique, d'un côté, effectivement, les ogres, et puis d'un côté, les astres. Alors, j'ai envie de poser une question à Stéphane, parce que effectivement, il y a Cronos, mais il a son équivalent chez le Romain, Saturne. Vous pouvez admirer, par exemple, la peinture de Goya, hein, Saturne qui dévore ses enfants. Mais il y a un truc plus particulier, c'est que effectivement, on a un astre qui s'appelle justement Saturne. Et que, alors, je suis pas un spécialiste du symbolisme astrologique, même si dans mon laboratoire de recherche, on a eu Elisabeth Tessier. Mais, en fin de compte, tout ce que je sais, c'est que en astrologie, on estime que les astres correspondent à des pans de notre personnalité. Et on estime que Saturne renvoie à notre instabilité, justement. Est-ce que, dans ton roman, est-ce que tu fais vraiment le lien, puisque tu parlais justement d'un déséquilibre au niveau des planètes, par rapport à la personnalité de ton personnage. Est-ce qu'il y a un lien par rapport à ça ou pas?
Alors, je ne suis pas du tout féru d'astrologie. Je ne m'y connais pas du tout en astrologie. Je ne sais pas de quel décan je suis. Et j'ai vraiment voulu repartir à ma manière. Mais comme je travaille à partir de l'histoire et du mythe, et aussi de l'histoire, la pensée médiévale sur l'influence des planètes, expliquant notamment son rôle en médecine, la théorie des humeurs, etc., je trouvais intéressant d'avoir les planètes comme structure du cosmos. Mais j'ai refait à ma sauce et à ma manière. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait un équilibre dans les astres intérieurs, que si un astre prend trop le dessus, ça crée un déséquilibre chez l'humain, pas chez les créatures fantastiques, qui elles sont plus liées à un astre. C'est d'ailleurs le cas d'un autre personnage dans ma saga principale, qui s'appelle Manesh, qui est le fils d'un géant solaire. C'est un géant solaire qui, alors ce qui est amusant, c'est que lui aussi c'est un enfant abandonné qu'on retrouve souvent en fantasy, hein, l'orphelin abandonné. Alors souvent il est abandonné parce que son papa n'avait pas le choix, parce qu'il est pourchassé par les forces du mal, mais alors la récompense c'est qu'il est l'élu. Ben là non, le semeur de feu c'est juste un géant, il y a plus trop de femelles géants solaires et c'est une sorte de Zeus, il fricote avec des humaines régulièrement. Alors les bons moines essaient de théoriser la façon dont cette union peut se produire. Je vous fais grâce des hypothèses, elles sont dans le bouquin. Mais en tout cas, il naît des enfants. Le problème, c'est que cet enfant est humain de corps, mais a en lui une énergie solaire de géant. Et c'est un don. Il peut s'en servir magiquement. Il a une durée de vie plus grande s'il survit. Il a des capacités surnaturelles. Il a surtout une force solaire, c'est-à-dire une force créatrice inextinguible. Mais le problème, c'est que cette force est trop grande pour son écorce de chair et que donc elle risque de le dévorer. D'ailleurs, ses enfants demi-solaires, une fois sur deux, dans les 6 premiers mois, ça se passe pas bien, ils s'enflamment spontanément, ils brûlent et c'est terminé. Et ceux qui réussissent à survivre doivent encore gérer le mal solaire. Quand ils s'exposent trop au soleil, ce petit surcroît de l'air solaire fait qu'ils commencent à brûler aussi, à avoir la peau qui rougit, à du feu dans les yeux, à devenir aveugle. Bref, il va devoir vivre avec cet excès de force solaire et ce déséquilibre, c'est un déséquilibre positif puisque le soleil est un astre faste, mais malgré tout le déséquilibre est dommageable. Donc on est dans une pensée grecque finalement, hein, pas du Bris.
Alors, ce qui est intéressant chez nous dans notre symbolisme maçonnique, et effectivement, c'est qu'on va retrouver deux astres majeurs, le soleil et la lune. Et c'est vrai qu'en maçonnerie, on est davantage lié à ce qu'on appelle à ce qu'on va appeler un chemin d'individuation, pour reprendre une terminologie jungienne. Donc l'idée que effectivement ce que tu dis assez bien, alors prenons l'exemple des astres, hein, Jung parle des dieux, mais quand on regarde le nom des astres, on voit que ça renvoie quand même aux dieux gréco-romains. Donc effectivement l'idée de Jung, c'est de dire que il existe ce qu'on va appeler le polythéisme de l'âme, que l'âme humaine elle est construite selon plusieurs facettes. Donc on n'a pas juste une seule facette, une seule force psychique, mais on aurait justement plusieurs forces psychiques. Et Jung parle volontiers de deux forces psychiques importantes chez les Grecs, qui est Apollon Dionysos, qui va être un petit peu le soleil et la lune. Donc on n'est pas obligé de rester sur cette dichotomie-là, hein, parce qu'on ne parle pas de dichotomie hein, dans la psychanalyse jungienne, on cherche justement à équilibrer les contraires, un petit peu comme le pavé de mosaïque qui se trouve au milieu de ce temple. Hein, il y a à la fois, c'est comme chez les Chinois, on a une part de yin, une part de yang. Donc l'objectif de la psychanalyse, ça va justement à ce que nous dit Jung, ça va de sortir de ce qu'il appelle la dissociation. Il explique que notre société a créé une forme de dissociation psychique, où on sépare le noir et le blanc. On crée l'exclusion, on crée la séparation. Donc, l'objectif de cette psychanalyse jungienne, ça va consister à réunir ce qui est éparse. Et je vous dis pas la difficulté, parce que ce processus implique justement de pouvoir dépasser certaines peurs. Et comme je l'ai dit hier, effectivement, la majorité, je dirais, des problèmes relationnels de notre société est quand même liée à nos peurs. Peur de l'autre, peur de... Sans aller dans la psychiatrie pure, sans basculer dans la maladie mentale, on a tous peur de dire ce qu'on pense, on a peur de gêner son voisin, on a peur de lui demander quelque chose, de lui demander un service, on a peur de mille choses. Et sans faire attention, ces petites peurs qu'on peut ne pas considérer, eh bien ces petites peurs créent des attitudes parfois trop névrotiques, qui fait qu'on bascule facilement, j'irais vers le côté obscur de la force, parce que c'est quand même de ça dont il est question. Et en maçonnerie, donc, pour nous, les astres, on a aussi l'étoile flamboyante du compagnon. Et effectivement, il y a cette idée, je pense toujours à la chanson de Jacques Brel quand je regarde l'étoile flamboyante, parce qu'il y a cette idée d'inaccessible étoile, et que finalement, le maçon, tout comme le cherchant, il s'inspire de cette étoile lointaine, il la suit pour pouvoir se construire et surtout pouvoir dépasser ses peurs et créer, encore une fois, créer un équilibre en toutes ses forces psychiques. Et c'est vrai que ce qui est intéressant chez les Grecs, moi c'est ce que je dis, c'est vrai que c'est passionnant, parce que à chaque dieu correspond une facette de notre personnalité. Dionysos, il incarne notre besoin de faire la fête, de boire, de picoler, on fait la brinque, on se lâche, c'est de lâcher prise. Apollon, c'est la rigueur, c'est le soleil, la lumière, donc c'est la raison qui prédomine. Mais chez les Grecs, il n'y a pas cette idée que la raison serait supérieure à l'imagination, par exemple, ou à l'ivresse. Non, chez les gréco-romains, on a cette idée que chaque dieu correspond à une parcelle de notre personnalité et qu'on a vocation à tous les célébrer. On célèbre la fête, la joie, on célèbre la fécondité, on célèbre la raison, l'intelligence, la poésie, on célèbre tout ce qui fait le cœur de notre personnalité psychique. Le problème, c'est que, effectivement, dans cette société un peu trop rationnelle à mon goût, on va délibérément faire la guerre à certains aspects de notre personnalité. On va pas pouvoir l'accepter. Et c'est tout le problème de la psychanalyse, c'est de voir que plus on va refouler certains aspects de notre personnalité, plus c'est ce qu'on appelle le retour du refoulé. Plus ça nous pète à la gueule, hein, grossièrement, c'est ce qui se passe. Donc, c'est pour ça que je milite depuis des années à nous montrer que la majorité aujourd'hui des œuvres imaginaires, hein, que ce soit Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, Matrix, restent sur ce que j'appelle un scénario initiatique. L'idée qu'effectivement tout le monde peut s'identifier au héros, puisque le héros finalement il incarne toutes ses peurs, ses hésitations, que ce soit Harry Potter, Luke Skywalker, le héros incarne les peurs. Luke Skywalker, il rêve de devenir pilote de chasse. Son oncle lui dit, c'est pas possible, arrête de rêver, tu ne deviendras pas pilote de chasse. Donc, il lui faut justement tout un travail sur lui-même pour accomplir ce destin-là. Et on est tous là, hein. Finalement, ce qui est étrange, c'est ce que je me dis souvent à mes patients, c'est que vous voyez pas, vous avez quand même une sorte de petite voix derrière vous qui vous dit, mais c'est ça que tu dois faire. Mais on veut pas l'écouter en disant, oui, mais on prend des risques, et puis si ça marche pas, je vais pas me lancer. Donc, c'est ce qu'on appelle l'intuition, hein, grossièrement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a quand même une petite voix, hein, ce que les Grecs appellent le daimon, ou les Romains appellent ça le genius, ou les chrétiens appellent ça l'ange gardien, tout simplement. Et on a cette intuition-là qui nous parle, mais c'est pas possible, on l'écoute pas. Parce que la société, en tout cas, n'accepte pas aussi, ne donne pas de place à cette petite voix, à cette petite intuition. Et c'est ça qui m'intéresse quand j'étudie les mondes imaginaires, c'est que souvent, justement, le héros est amené à dialoguer avec cette petite voix intérieure et à développer un petit peu ce monde-là. Mais en même temps, il est amené aussi à gérer ses peurs. Et dans Star Wars, eh bien, le jeune Anakin Skywalker, eh bien, il a tendance finalement à plus écouter ses peurs, parce qu'il a peur de perdre sa bien-aimée. Et puis là, il bascule du côté obscur, il devient un ogre, il devient un dictateur. Mais en même temps, à la fin, il repasse du côté lumineux, il repasse du côté de la force. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, de ne pas oublier que notre personnalité n'est pas figée dans le temps. Et là-dessus, on renvoie aussi à Chronos et à cette idée d'instabilité du temps.
Vous voulez rajouter quelque chose? Donc, Skywalker qui redevient un ogre dans les astres, on retrouve un petit peu le sujet.
Si ce n'est que Star Wars, c'est effectivement est plus de la fantasy aux yeux de beaucoup d'auteurs que de la science-fiction, justement, parce qu'il est sur le modèle initiatique, et parce qu'il y a de la magie, de toute façon, via la force. Non, sinon, tu parlais de dualité, de pensée duale. Ce qui est paradoxal, c'est que tu disais chez les Grecs, on avait toutes les facettes de notre personnalité qui étaient honorées. C'est quand même chez les Grecs, ceci dit, que la dualité est née, avec Platon. Moi, ce que j'ai observé qui m'a frappé aussi, beaucoup de romans de fantasy sont construits, en tout cas depuis Tolkien, sur le mode du combat du bien contre le mal. Et évidemment, pas que des romans de fantasy. Et tout ça a été exacerbé en plus par Hollywood, le bien contre le mal, le bien contre le mal, le bien contre le mal. Moi, j'avais envie d'écrire une forme de fantasy qui soit pas manichéenne, où il n'y ait pas les bons et les mauvais. Que je trouve une façon de penser assez pauvre. De plus, je puise beaucoup dans le mythe et dans l'épique. Et je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que les grands épiques, que ce soit l'Iliade évidemment, que ce soit le Mahabharata hindou, qui est une de mes grandes sources d'inspiration, que ce soit la Razzia des vaches de Cooley irlandaise, je pense qu'on peut continuer à creuser beaucoup. Il y a certes un camp qui a plus de tort que l'autre, mais il y a des héros vertueux dans les deux camps, de grands guerriers, des gens loyaux, qui sont loyaux à leur camp par le jeu des loyautés féodales, et il y a des crapules et des fous dans les deux camps. Hein? Sur l'Iliade, vous conviendrez qu'Hector est infiniment plus sympathique qu'Achille. Mais on peut aussi citer, par exemple, dans les personnages, Ménélas, Agamemnon, sont pas des plus sympathiques chez les Grecs. Pourtant, c'est le camp qui a le bon droit, mais c'est là qu'il y a le plus de salauds. Et alors, quand on parle carrément du grand Ajax qui devient fou et qui massacre un troupeau parce qu'il n'a pas eu les armes d'Achille, donc là, on a un mythe de l'orgueil, mais qui est placé aussi dans le camp des... Donc, c'est quand même très intéressant. Dans le Mahabharata hindou, ça va vous plaire, parce que c'est la lignée solaire qui affronte la lignée lunaire. Donc, il y a une rupture. C'est quelque chose, c'est un motif que j'ai repris d'ailleurs dans ma saga. Et de nouveau, il y a dans le camp qui n'a pas le droit pour lui... le camp des Kauravas, il y a des personnages très vertueux, des grands brahmanes que sont Drona, le grand Bhishma, etc., mais qui sont liés par les liens féodaux qui sont dans le mauvais camp. Il y a à l'inverse un démon dans le camp des Pandava, dans le camp des bons, mais qui est aussi un personnage finalement positif. Donc il y a énormément de nuances. Même dans la Razzia des vaches de Cooley, on a l'affrontement entre le maître et l'élève, mais d'un niveau, sont deux chic types. Voilà, c'est la guerre. Alors, ça vient peut-être aussi du côté, les épiques sont destinées avant tout à la noblesse d'une époque, et c'est un peu un match, en fait. On aime bien regarder, on aime bien les joueurs des deux équipes, en fait, quelque part. Mais c'est une vision du monde qui est infiniment moins manichéenne que celle qui prévaut maintenant. Et je me suis demandé, où était la rupture? Alors, il se fait que dans l'Iliade, dans le Mahabharata, dans la Razzia des vaches de Cooley, on va s'affronter des héros. Les héros ont du sang divin et les dieux protègent leurs fils. Et donc, en fait, les dieux, qui sont pour les Grecs comme pour les hindous de multiples avatars d'un même principe universel. Hein. En tout cas, quand la pensée grecque évolue, elle finit par devenir une sorte, chez les philosophes grecs, hein, une sorte de monothéisme dans lequel les dieux sont des incarnations d'un même principe divin. Principe qui va être exporté, qu'on va retrouver dans le zoroastrisme, qui va revenir en Égypte avec la tentative d'imposer un dieu unique, qui va être elle-même récupérée par les juifs en exil en Égypte, qui vont passer à l'énothéisme, choisir un dieu, si j'ai bien compris, en forme de taureau, qui va être élevé au dieu au rang de dieu principal et puis de dieu unique, parce que politiquement c'était intéressant. Et politiquement, c'est bien là le problème. La rupture n'est pas dans le monothéisme, mais elle est dans l'exploitation politique du monothéisme. Mal compris, donc. Et donc, Dieu ne peut plus être que dans un seul camp. Et ça, c'est embêtant pour notre façon de raconter. Parce qu'il n'y a plus que ceux qui sont dans le camp de Dieu, et les autres sont forcément mauvais, ils sont dans l'erreur. Et notre façon de raconter, je pense, c'est terriblement appauvri. Et tout ce qui est hollywoodien, courant américain, etc., a terriblement contribué à enfoncer le clou pour appauvrir notre façon de raconter. Les épiques, les grands épiques antiques sont infiniment plus subtils dans notre façon de raconter et d'ailleurs approfondissent très très bien la nature humaine. Hein.
Merci Stéphane. C'est bon ? Non, c'est bon. Très bien, donc il y a quelque chose quand même qui vous réunit tous les deux. Quand j'ai vu l'intitulé donc, de la conférence des ogres et des astres, je me suis dit, oulala, et puis alors qu'est-ce qui peut les réunir ? Ben, je crois que puisque on est dans un temple maçonnique, ce qui vous réunit en fait c'est le pavé mosaïque par-delà le bien et le mal. Ouais. Je vous remercie. Alors si vous avez des questions à poser, vous levez le doigt et je vous donne la parole. Oui.
Une question simple, est-ce qu'il est possible de revenir sur l'intuition ? Pourquoi ce phénomène propre à chacun, est si peu suivi, si peu entendu, si peu reconnu ?
La petite musique, quoi. Je crois que c'est pour toi.
Alors, à mon sens, il y a une méfiance qui vient essentiellement de nos institutions surplombantes. C'est-à-dire qu'effectivement, l'intuition, finalement, remet en cause toutes les suprastructures qui se sont construites sur notre faculté, sur notre raison. Donc effectivement, vu qu'on a quand même construit une science moderne, on a construit une société qui se base quand même exclusivement sur la raison comme reine des facultés, l'imagination et l'intuition, justement, ça vient remettre en question la légitimité de ces institutions-là. Effectivement, il y a une dichotomie qui s'ouvre déjà dès l'époque de Platon. Alors c'est peut-être un peu plus complexe quand même chez les philosophes grecs, mais par la suite surtout, dans certains conciles catholiques, cette question-là, elle va être posée. Et Dieu va devoir choisir un camp. Enfin, en tout cas, Dieu va s'inscrire dans un camp et c'est comme ça que naît l'Inquisition. C'est-à-dire que ceux qui ne pensent pas comme nous, on les éradique. Donc tous ces, par exemple, quand les cathares ont été exterminés, c'était ça le procès d'intention, c'est qu'effectivement ils appelaient leur intuition, leur imagination, ça gênait l'Église de l'époque parce qu'ils n'étaient pas inscrits dans le dogme et dans le carcan. Donc c'est ce que Jung appelle la pensée unilatérale. Alors je sais pas vraiment on a certaines dates qui expliquent certainement l'émergence de cette pensée unilatérale. Mais essayer de comprendre finalement qu'est-ce qui a déclenché, c'est quand même compliqué, c'est très complexe, puisque là on est sur justement c'est peut-être notre conflit intérieur qui serait à l'origine de tout ce complexe sociétal, puisque on en arrive à une société qui est radicalement désenchantée. Donc je pense que il faut aller chercher du côté du rapport qu'on a nous avec les institutions, parce que les institutions, il faut quand même bien savoir, à l'ENA, on n'étudie pas les imaginaires. Un énarque n'étudie pas la mythologie. Alors, c'est peut-être dommage. À côté, c'est mais dans le programme, c'est pas dans le programme de l'ENA. Donc, c'est ça qu'il faut peut-être comprendre aussi. Et c'est pareil à l'école républicaine. Hein. Alors là, je vais en choquer plus d'un, Mais à l'école républicaine, on apprend ce que disait Albert Jacquard, on apprend par exemple à avancer contre l'autre, en compétition, à écraser et à dominer l'autre, son voisin. On ne cherche pas à créer, à avancer avec l'autre. Et on ne fait certainement pas appel à notre imagination, puisque c'est quand même les mathématiques qui ont le haut de l'affiche. Et qu'est-ce que représente la poésie à l'école primaire et au lycée ? Qu'est-ce que représente la poésie ? Pas grand-chose. Malheureusement, sans faire appel à des chiffres, ce que je vois des programmes scolaires montre que toutes les disciplines liées à la science moderne, surtout aux sciences modernes, parce que quand on regarde aujourd'hui la science d'enjeu, c'est ça qui est remarquable, c'est qu'aujourd'hui j'ai plus de liens avec certains physiciens, parce que dans la physique quantique, maintenant on recourt à l'imaginaire. Mais au niveau du programme scolaire, on reste sur la science moderne, classique.
Alors, moi je ferais bien la distinction entre l'imagination, l'intuition, et même entre l'intuition et l'empirisme. Parce que l'intuition est quelque chose d'assez difficile à définir. Pour la petite histoire, en tant qu'étudiant en histoire, j'ai dit un jour à un assistant en histoire que l'imagination était une des qualités les plus importantes pour un historien. Il s'est étranglé. Quoi ? Non, c'est les sources, uniquement les sources, tu ne dois rien inventer, tu dois te baser sur les sources. Bien sûr que je dois faire ça, c'est un effort d'imagination discipliné. Mais pour reconstituer l'état de pensée de la personne qui a écrit cette source, pour pouvoir déjouer sa part de subjectivité, etc., qu'est-ce que c'est ? C'est se mettre à sa place, c'est un effort d'imagination. L'imagination, c'est notre principal atout évolutif. C'est ce qui nous permet de faire apparaître des choses qui n'existaient pas. Mais ça marche à partir du moment où elle est disciplinée. Les rêveurs ont bâti le monde et ils continueront à bâtir le monde. Donc, faut pas laisser le pouvoir à ceux qui font des cauchemars ou des rêves centrés sur eux-mêmes. Donc pouvoir réimaginer une époque, c'est l'historien a besoin d'imagination, mais vraiment une imagination disciplinée. Alors, l'intuition, cette petite voix, ce daimon, c'est quelque chose de difficile à définir et ce qui le rend, entre guillemets, dangereux, mais je crois en ses vertus, hein. Je crois en son importance, surtout quand il s'agit de choisir son propre choix de vie, c'est qu'il ne faut pas la confondre avec l'empirisme, avec des a priori, avec des façons d'appréhender le monde qui sont dues à notre expérience. Parce que celles-là sont très limitées et on arrive à un moment charnière, à mon sens, dans l'histoire de l'humanité, où elles sont devenues très contre-productives et où seule la pensée scientifique peut nous permettre de comprendre le réel au-delà de ce que nos sens ont été conçus pour nous montrer. Nos sens ont été conçus pour nous montrer ce dont on avait besoin pour bouffer, survivre, passer l'hiver et procréer. Ils ne nous ont pas permis d'appréhender ce qui peut se passer à 3, 4, 5 générations de distance. Et c'est pour ça qu'il y a tant de négation du réchauffement climatique. C'est parce que c'est contre-intuitif. Contre-intuitif au sens contre-empirique, en fait. Que notre façon d'appréhender le réel n'est pas prête pour comprendre ça. On n'est pas prêt de comprendre, par exemple, que si on ne colonise pas d'autres planètes, notre espèce est foutue. Et quand je dis foutue, c'est elle est limitée dans le temps. À échelle de 100 ans, 1000 ans, ou 10 000 ans, ou 100 000 ans, je n'en sais rien, mais tôt ou tard, on aura exploité toutes les ressources à notre portée. On doit donc aller plus loin. Si on ne le fait pas, à un moment, on est dans un cul-de-sac évolutif et on s'arrête. Ce sont toutes des choses, quand je le dis, moi, ça me paraît évident parce que mon imagination, de façon disciplinée, travaille à me projeter dans cette réalité en basant sur des faits rationnels et scientifiques, mais c'est contre-intuitif pour toute une série de gens.
Vous avez posé une simple question, vous êtes content des réponses ?
Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Allez-y. Je me dis quand même que l'intuition, c'est cette chose qui nous parle et qui vient certes. Dans tous les cas, on constate toujours que quand on écoute, eh bien, c'était ce qu'il fallait suivre. Alors voilà pourquoi elle engage aussi à regarder, à chercher les synchronicités, elle fait sens, enfin, ça entraîne tout un état d'être qui me semble être créatif. Alors pourquoi elle n'a pas davantage dans le chapitre de la réponse ?
D'autres questions ? D'abord, peut-être s'arrêter là parce qu'il y a une remise de diplôme. Hein, tu voulais ajouter quelque chose ? Bien, merci à vous deux intervenants.